Bon lundi, à l'écoute de CFM Radio, mesdames et messieurs, c'est Jacques pour le magazine du Tarn. La suite de nos émissions spéciales sur le festival de cordes sur ciel, un festival qui est dédié aux musiques de chambre et à la musique classique, un festival qui bat son plein dans la cité médiévale depuis vendredi dernier, avec pour fil conducteur, je vous le rappelle cette année, les Amériques. Tous les jours du festival, notamment à midi, il y a un concert gratuit appelé Impromptu, en divers lieux du village et par exemple ce lundi midi. C'est au musée d'art moderne et contemporain avec un solo de Yui Sakaguchi au saxophone. Demain, c'est à l'ancien couvent de Cordes-sur-Ciel et jeudi à la maison Font-Pérouse. Et de quoi profiter gratuitement d'un concert pour les curieux. Aujourd'hui, en studio, nous accueillons trois artistes invités pour cette traversée des Amériques. Tout d'abord, la compositrice en résidence de cette 54e édition. Elle est d'origine brésilienne. Sa musique s'intéresse aux limites entre gestes et écriture, improvisation et composition. Bonjour, Michel Agnès Magalès. Bonjour.
Bonjour, bon dia.
Merci d'être avec nous. Également avec nous, une flûtiste qui est libre et qui affectionne de bâtir des ponts entre la musique et d'autres disciplines artistiques. Elle se prête volontiers à performer dans des lieux inédits et à démocratiser l'écoute de ses musiques de chambre. Bonjour Julie Huguet.
Bonjour, enchantée.
Merci d'être là. Et enfin un pianiste, lui, il nous vient de la Suisse. Il est vif, engagé et curieux. Il aime faire dialoguer les styles et les époques. Et bien sa place est bien parmi nous. De Bach à Schumann en passant par des compositeurs de traverse comme John Cage à Charles Ives. Bonjour Cédric Pétien. Merci d'être là Cédric. On redit encore ton bonjour, va. Bonjour.
Bonjour.
Ah, vous entendez cette voix, on dirait grand corps malade avec nous. Alors, Michel Agnès, tout d'abord, tu es l'une des compositrices en résidence depuis Clara Yanout en 2018, des compositrices uniquement qui sont reçues sur ce festival. J'aimerais que tu nous rappelles un peu quels ont été, on va dire, les défis et libertés dans ce rôle de compositrice comme ça pour un festival. Ça passe par quoi? C'est quel type de commande que l'on reçoit quand on discute avec l'équipe du festival?
Ici, tout est très vivant. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir des pièces jouées. Une pièce qui a été composée pendant l'époque du confinement par les Quatuors Zaïd. Et après aussi des pièces fraîchement, une pièce fraîchement faite, qui a fait partie d'un concert appelé Atelier de la compositrice. C'est une pièce qui est en cours de composition. Et les festivals, bon, très généreusement, nous a accueillis dans un moment de processus. Donc, on a pu partager avec les publics qu'est-ce que c'est de composer une pièce sur place. Et aussi de partager la première rencontre avec deux musiciens extraordinaires, Yui Sakaguchi, saxophone, et Maron Lambert. Et aussi, évidemment, la chanteuse Luanda Siqueira, qui est aussi la collaboratrice de ce projet.
Donc c'est une chanteuse que tu avais choisie dès le départ, Luanda Siqueira, ou comment ça s'est passé là d'apporter de la voix du coup sur cette composition-là?
Luanda Siqueira, c'était une belle rencontre. Elle est aussi d'origine brésilienne, basée en France. Elle est soprano, mais aussi musicologue. Donc on s'intéressait beaucoup par des aspects historiques qui sont aussi évoqués pendant les festivals. Parce que bon, les festivals, je trouve que sa richesse, c'est qu'il permet au public... pas seulement de découvrir la musique, mais il a tout un volet culturel avec les conférences, la petite librairie qui nous accompagne, la cuisine aussi, et ce partage qui est fait avec les publics de façon très naturelle. Donc avec Luanda, ici, ensemble, on a trouvé que c'était la bonne occasion pour lancer la première pierre de ce projet, qui c'est un projet d'opéra des chambres. Qui se passe, dont l'histoire se passe, elle est toute traversée par l'océan, par ces mouvements de migration qui a mis en parallèle la migration forcée, l'esclavage et des personnages qui vont s'affranchir, des femmes qui vont s'affranchir. Donc on voudrait vraiment poser la lumière sur cette question-là de la liberté, de mouvements révolutionnaires. Mais en même temps, en parallèle aussi avec la migration des oiseaux. Donc, pardon si je pars dans tous les sens, mais ça vous donne aussi un petit goût de ce que ça signifie d'avoir tous ces processus ici pendant les festivals, où il y a aussi toute une discussion de fond sur des moments historiques qui ont traversé aussi la musique.
Et ça nous donne un aperçu des comment se baladent les neurones dans le cerveau d'une compositrice. Et il a fallu aussi réfléchir peut-être dès le départ à l'instrumentation, parce que là on est sur une voix soprano, un saxophone et une percussion. C'est venu comme ça d'entrée de jeu en te disant cette composition, elle va rassembler, on va dire, ces trois instruments-là.
Ça c'est une petite partie d'une pièce qui va être plus longue et qui va donc on va avoir une instrumentation qui est plus vaste. Mais pour les départs, c'était un super bon choix et c'était aussi on a trouvé ces choix ensemble avec l'équipe de Linéa et aussi du festival parce que comme je voudrais faire sortir cet aspect de la sonorité de la langue brésilienne. Portugais brésilien en fait, mais qui est tellement particulier qu'en français on fait cette différence. Parfois on appelle tout simplement les Brésiliens et je trouve que c'est très joli. Et on voudrait faire sortir cet aspect de la sonorité de la langue et les saxophones et la percussion ont été vraiment ont privilégié cet échange parce que déjà c'est une langue qui a un côté très musical et très percussif aussi. Et dont la tradition, l'oralité, nos chansons mettent ça en évidence, surtout les liens entre la musique et la voix parlée. On va trouver par exemple de bels exemples, pardon, on va trouver des exemples comme une chanson Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Donc, c'est, on est vraiment entre la percussion, la voix chantée et la voix parlée. Donc, pour être un peu dans cet univers, c'est vrai qu'avoir aussi les saxophones avec tout cet univers des petits sons qu'on appelle slap ou des clics de clé plus la percussion, c'était idéal.
Ça se marie bien, ça se marie bien. Et alors, est-ce qu'elle va flûter, chanter et parler demain à midi, Julie Huguet? Parce que tu vas proposer en impromptu hein, au couvent, à l'ancien couvent de cordes sur ciel de demain à midi, une œuvre de Michel Agnès, mais uniquement à la flûte.
Alors, on ne va pas tout vous révéler, car ce sont des concerts mystères, mais c'est vrai qu'on va partir sur un univers enchanté, poétique, est basé sur des contes qui viennent de la forêt d'Amazonie et qui nous ramènent à des racines profondes et à des essentiels et à ces chants des cœurs, je dirais même, de l'humanité qui traverse le monde et l'invisible. Et oui, il y aura de la flûte, il y aura différentes flûtes, il y aura aussi de la voix. Et puis, je pense même que le public participera et sera complètement intégré au voyage.
Partie prenante, quoi. Alors là, on est sur une autre approche du travail hein, de la musique de chambre ou de la musique classique, parce que très souvent, les compositeurs dont vous reprenez les répertoires sont décédés depuis des siècles et des siècles. Et là, j'imagine que l'approche ou la manière de travailler est différente quand on a la compositrice en chair et en os et même en face de soi.
Ah, c'est une chance inouïe, déjà, de rencontrer la personne, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ça permet de rencontrer l'esprit et la façon d'aborder l'écriture. Et par exemple, hier, au merveilleux concert à Gaillac où le quatuor à cordes Zaïd jouait l'œuvre de Michel Agnès, j'ai senti j'ai été très, très touchée par cette œuvre. Et il y avait un rapport au corps, à la sensualité du son et puis à tous ces effets qu'on peut trouver avec la physicalité de l'instrument. Un instrument à cordes avec le bois, avec l'archet et la flûte, ce sera très différent. Et pourtant, Michel Agnès, même avec les cordes, parlait du souffle. Et c'est vrai que je crois que même avec un pianiste, le souffle nous traverse et tout se rejoint, oui.
Ouais, c'est il est à l'heure le train ou pas?
Le train était parfaitement à l'heure.
Comme quoi, hein. Comme quoi, on va écouter un peu de musique en suivant, mais tout d'abord, je voudrais que Michel Agnès nous explique, on va dire, un sujet qui l'intéresse depuis plus de 10 ans maintenant, c'est le lien entre musique et neurologie. Et il me semble que tu travailles aussi avec des chercheurs dans le domaine. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce que fout une compositrice dans le domaine de la neurologie.
Alors moi, je suis chercheuse aussi. J'ai fait des belles rencontres. Ce que j'aime dans ces métiers, ce que j'aime le plus, je pense que la composition, c'est juste une excuse pour rencontrer des gens.
Comme le journalisme.
Parce qu'en plus de très belles rencontres, ça veut dire que je travaille avec comme vous pouvez écouter, de superbes personnalités musicales et aussi humaines. Donc je suis très très émue d'être dans ces festivals et de faire autant de belles rencontres. C'est un travail qui est fondamentalement de la collaboration, de l'écoute. Pour moi, on écoute plus qu'on écrit presque. Et je me suis intéressée à tous les aspects qui étaient liés à la production du son. Et j'ai rencontré Béatrice Sauvageau, que c'est une neuroscientifique. Et les liens justement que la neurologie, la neuroscience, il a par rapport à la musique. C'est un lien privilégié parce que en tant que musicien, on arrive à engager une perception qui est tactile, qui passe par l'écoute, qui passe par les symboliques aussi, qui passe par l'interaction avec l'autre, la représentation symbolique, l'imaginaire, la poésie. C'est pour ça que tous ces aspects, ils sont richement évoqués dans ces festivals qui fait appel à une sensorialité qui passe par cet échange, les conférences, la cuisine même et la littérature. Et donc la neuroscience, ça m'a touchée en fait, ces rapports, et ça m'a ouvert un peu les horizons, parce que parfois, en tant que musicien, on est tellement préoccupé si notre travail techniquement il est assez bien, si par rapport aussi à des niveaux de perfectionnisme qui parfois nous mettent dans des crises profondes, c'est pas un métier facile à faire. Et avec cette rencontre, échange avec les neuroscientifiques, ils m'ont fait comprendre, mais arrêtez de vous prendre la tête finalement. On a une expérience tellement riche qui se passe à travers tout ça, qui parfois ça vaut pas la peine de se faire des crises.
Et parfois le silence est important, ça permet de faire le pont avec Cédric Pecha qui est avec nous, qui va jouer ce soir à 18h à l'église de Saint-Michel des œuvres de Schumann, en parallèle de celle de l'américain John Cage. On écoute ici Robert Schumann, Papillon, opus numéro 2. De Michel Agnès Magalès, compositrice en résidence de la 54e édition du Festival de Cordes sur Ciel. Julie Huguet, flûtiste, est également avec nous, ainsi que Cédric Pecha, qui est pianiste, qui a joué hier soir un grand récital de piano à l'église Saint-Michel de Cordes sur Ciel, en traversant, on va dire, trois géants de la musique, Beethoven, Liszt et Ives. J'aimerais d'abord que tu nous parles un peu de ce concert hier soir. Cédric, pour toi, comment ça s'est passé ?
C'était une expérience vraiment très marquante, notamment de par l'attention extrême du public. Je dirais même la participation, en fait. Je pense que c'est une œuvre qui est l'œuvre principale que j'ai jouée hier, qui s'appelle Concord Sonata de Charles Ives, qui est d'une durée importante, qui est d'une puissance, d'une violence aussi, d'une douceur. On passe par une somme d'émotions assez impressionnante, et je pense que si le public n'est pas disposé ou n'est, n'est, n'a pas envie tout simplement ou s'égare ou se perd, ça peut devenir vraiment une lutte. Et donc là, vraiment, je suis très reconnaissant déjà d'avoir pu jouer cette pièce dans ce cadre et aussi d'avoir eu cette attention du public et notamment le silence à la fin parce que la pièce se termine de manière très douce, très énigmatique, comme une question. On a eu beaucoup de questions pendant toute l'heure et pas vraiment, enfin, à chacun de trouver ça ou ses réponses ou de penser qu'il n'y en a pas ou momentanément qu'il n'y en a pas en tout cas. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que le public n'applaudisse pas tout de suite, qu'il y ait vraiment un moment de recueillement. Et là, justement, on sent cette symbiose entre la personne sur scène, moi en l'occurrence, et le public.
Alors ce soir, changement de décor radical, hein, parce qu'à 18h, tu vas jouer John Cage d'un côté, Robert Schumann de l'autre. On peut parler d'un grand écart esthétique. Comment est-ce qu'on aborde ce qui est finalement un double univers dans le même programme?
Alors on le fait en permanence, comme tu l'as dit tout à l'heure, on joue beaucoup de musique de compositeurs déjà décédés, mais aussi de la musique actuelle, ce que je fais aussi beaucoup. L'approche, elle est évidemment différente, parce qu'à chaque fois, on doit se mettre dans un costume différent, mais dans le fond, elle est toujours un peu la même, c'est-à-dire de donner tout ce qu'on a, de se mettre à nu, il y a quelque chose de... Surtout quand on est seul sur scène, en tant que pianiste. Et moi, un peu mon credo, bon, il se trouve que je suis venu à la musique classique par l'improvisation. Avant d'avoir un prof de piano, j'ai simplement passé des heures et des heures à improviser sans avoir aucune base. Et j'ai fait aussi un peu de composition, mais pas de manière très, très poussée, disons. Et un peu, ce que je cherche dans chaque pièce que je joue, c'est d'essayer de comprendre ce qui a amené le compositeur à cette page imprimée que nous avons. Et ça, c'est vraiment du domaine de l'imagination. On ne sait pas comment ça commence, quelle est la première idée, quelle est la première impulsion. Et ce que j'essaye de faire, je ne sais pas si j'y arrive toujours, mais c'est de donner l'impression quand je joue une pièce qu'elle est créée sur le moment, en fait. Et qu'il n'y a pas justement ce côté un peu qui peut être redondant. On se dit, voilà, il y a un texte qui est écrit, qui est imprimé. Plus il est vieux, plus il est entre guillemets sacré, plus moins on a le droit d'y apporter des éléments personnels. Donc ça, en tout cas, comme une sonate comme celle que j'ai jouée hier, ou partiront la musique de Beethoven aussi, qui a, je trouve, cette force, mais plein d'autres musiques aussi, vraiment de... Et que surtout, ça soit chaque jour différent. Parce que je pense qu'un des dangers qui peut nous guetter, particulièrement quand j'ai l'occasion de jouer une même pièce plusieurs soirs de suite, c'est de se répéter, de se dire « Ah, c'était bien hier, on va faire la même chose ». Et ça, j'ai pas du tout envie, en fait, ça m'intéresse pas, en fait. Donc, à chaque fois, évidemment, en respectant, en jouant les notes qui sont écrites sur le texte, je vais pas changer des notes, mais à chaque fois d'essayer vraiment de repartir de l'avant-veille, en fait.
Ouais. Moi, je ressens chez toi plutôt aussi une curiosité ou une propension à aimer un peu les compositeurs à la marge. Que ce soit hier avec Ives ou aujourd'hui avec Cage, ce sont plutôt des compositeurs qui sortent un peu des sentiers battus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, qui t'interpelle dans ces musiques qu'on peut qualifier de conceptuelles parfois, parce que Ives, c'est pas donné à tout le monde, le roi de l'indéterminisme. Chez Cage aussi, la notion de silence est très importante. Je sais même plus quel compositeur disait que le plus dur dans la musique, c'est les silences entre les deux notes. Mais voilà, je voudrais que tu me parles un peu de ces compositeurs que tout le monde ne connaît pas. Beethoven, on a entendu au moins parler une fois dans sa vie, Schumann aussi, mais John Cage, Ives par exemple, pas toujours. Comment ces compositeurs-là arrivent dans tes oreilles et qu'est-ce qu'ils évoquent en toi musicalement, intellectuellement, émotionnellement?
Bon, c'est vrai que je suis très curieux par nature, et alors bon, je suis de loin pas le seul à jouer ces pièces, mais c'est vrai que c'est peut-être moins courant que de jouer du Tchaïkovski ou du Beethoven quand on est pianiste. En fait, je crois que c'est toujours la même chose. Je joue des musiques où j'ai l'impression qu'il y a un message très fort derrière, que c'est absolument essentiel, en fait. Je crois pas en une musique d'ameublement ou une musique de fond. Alors, dans certains cadres, c'est pas que ça me dérange non plus, mais quand je vais sur scène ou quand je fais de la musique de chambre, ça doit être une œuvre qui est puissante, qui crée un monde en soi. Et qui est aussi un challenge quelque part. Je pense que l'œuvre que j'ai jouée hier est un challenge émotionnel pour la personne qui la joue, mais aussi physique, parce que c'est d'une telle difficulté. Et on a aussi des écarts au niveau des mains qui font qu'aujourd'hui, j'ai vraiment des courbatures comme si j'avais...
Ah ouais, on s'imagine pas.
On s'imagine pas. C'est très physique, en fait. Et c'est très physique et aussi émotionnellement. C'est, comme je disais tout à l'heure, on se livre complètement, on est complètement à nu. Voilà. Et aux antipodes de ça, il y a cette pièce de John Cage que je vais jouer. Je ne sais pas si le terme jouer est approprié, mais qui est une pièce uniquement silencieuse, qui dure 4 minutes 33.
C'est facile, 4 minutes 33 de silence.
C'est très long. Mais il fallait avoir cette idée.
C'est ça, c'est ça.
Et je pense que là, encore plus, le rôle du public est essentiel. Et que chaque personne vit ces 4 minutes 33 de manière très diverse, entre l'extase et la profonde angoisse que ça génère chez certaines personnes, le profond ennui aussi que ça peut générer. Et là, je fais partie du public quelque part. Je ne suis plus...
Juste l'artiste. Ouais. C'est à 18h, hein, à la chapelle du Saint-Crucifix à Cordes-sur-Ciel. Et je le disais, c'est la liberté qui est peut-être le mot qui vous unit tous les trois, entre compositrice, instrumentiste aussi. Et Julie, en particulier, tu as cette propension à aimer jouer de la flûte dans des lieux inédits. J'aimerais que tu nous parles un peu de ces lieux. Où est-ce que tu as aimé jouer comme ça de la flûte, qu'elle soit classique, contemporaine, pop, rock, que sais-je encore? Est-ce que tu t'es baladé avec ta flûte sur des marchés, dans des bistrots, dans des hôpitaux, dans des gares?
Ah oui, absolument, dans tous ces lieux-là, dans des lieux aussi de nature, dans des endroits où la musique n'est pas forcément souvent entendue, et ça permet à des gens de la toucher du doigt et de se dire, de pouvoir justement cette fameuse musique qu'on appelle classique, je n'aime pas cette appellation, je me suis dit pourquoi pas l'appeler musique écrite. Mais je dirais que c'est surtout une musique souvent acoustique où enfin dans notre société où tout passe par des enceintes et les sons sont trafiqués, les personnes reçoivent une onde physique. Et ça, c'est aujourd'hui exceptionnel. Et on ne réalise pas, et quand on parle que le public fait partie prenante du concert, c'est que le public lui-même devient un résonateur qui nous permet de jouer différemment. Donc c'est aussi pour ça que j'ai cette envie de rencontre, non seulement d'un lieu, mais des gens, parce que chaque instant est unique, on ne jouera jamais de la même façon, parce qu'aussi la personne en face de nous sera quelqu'un d'autre, recevra différemment la musique. Et nous, forcément, comme tout cela rentre en circulation, c'est souvent très surprenant, en fait. Donc, voilà pourquoi aussi j'aime c'est aller à la rencontre d'autres façons de transmettre la musique, enfin de la partager, surtout.
Mercredi à 18h à la chapelle du Saint-Crucifix, tu joueras un dialogue transatlantique entre Hector Villa-Lobos et Johann Sebastian Bach, accompagné d'Antoine Péker au basson. Un dialogue qui est imaginaire, mais qui a quelle importance?
Ah, qui est génial. Déjà aussi, on ne parle pas seulement de Jean-Sébastien Bach, mais de sa femme, sa deuxième femme, qui est Anna Magdalena Bach, qui a été très très importante dans la vie de Bach. Et ce qui est beau dans cet échange, c'est que ben, y a plusieurs siècles qui séparent ces compositeurs. Mais il y a un rapport, parce que Hector Villa-Lobos, c'est début 20e au Brésil, et Bach, on est en pleine Allemagne à la fin du 18e siècle. Et il y a un rapport, encore à cette époque-là, en Allemagne, à la danse, comme au Brésil, où évidemment, musique, danse, tout ça est lié. Et en fait, on retrouve ces airs, on retrouve ces danses, et finalement... Les siècles passent, mais le cœur humain est le même. Et vous allez voir que la musique de Bach, ça peut être aussi rock, surtout avec Antoine Péker au basson. Et puis la musique de Villa-Lobos, qui était super touchée par Bach et l'écoutait beaucoup. Et s'en est beaucoup inspiré pour écrire sa musique.
Eh bien tiens, écoutons une interprétation de Bachianas Brasileiras numéro 6 qui est au répertoire de ce que vous allez proposer mercredi avec Antoine Péker, et cette fois-ci à la flûte c'est Francesco Biola et au basson c'est Reynard de Philippe. Thank you. Voilà un extrait hein, de Batianas Brasileiras numéro 6 pour flûte et basson au répertoire hein, du concert de 18h ce mercredi à la chapelle du Saint-Crucifix. C'est Julie Huguet qui sera à la flûte et Antoine Péker, directeur artistique aussi de ce festival, qui sera au basson. Moi je me dis, hein, on ne peut pas aimer ce type de musique sans être encarté à la Ligue de protection des oiseaux. Là on entend des oiseaux dans tous les sens, forcément on doit aimer les oiseaux quand on écoute ce style de musique. On va terminer par une question beaucoup plus philosophique et ouverte, messieurs et dames, sur comment faire pour apporter cette musique un peu à l'oreille de tout le monde, parce qu'elle souffre depuis des dizaines d'années d'un élitisme que chacun essaye de combattre à sa manière. Toi, Michel Agnès, il y a une part de côté très contemporain dans les compositions que tu proposes, que l'on aime la musique électro, que l'on aime la techno, on peut s'y retrouver. Est-ce que ça, c'est le moyen que toi, tu as trouvé peut-être pour amener cette musique aux oreilles de tout le monde ?
Non, c'est une excellente question. Mon travail, il répond à cette question de façon assez directe. C'était justement quand je commençais à faire sortir la musique écrite aujourd'hui d'un cercle qui est très restreint et permettre aussi à d'autres musiciens de la jouer. Donc j'ai écrit des partitions entre guillemets qui sont destinées au public. Je me suis intéressée aussi beaucoup à l'interaction. Donc j'ai un projet dont vous allez voir ici aussi un tout petit peu aujourd'hui avec Yui Sakaguchi, dans lequel on invite les publics à faire cette expérience de la durée, du tempo, de qu'est-ce que ça signifie passer de la lenteur à la rapidité, et aussi de comprendre et faire cette expérience d'une musique qui est aussi à l'intérieur de nous. Donc pour moi, c'est avant tout apporter cette information au public que la musique, elle est à l'intérieur de nous, elle est partout, elle se joue à chaque moment de notre être vivant.
Cette participation du public, Cédric en a parlé, pour toi ça aussi c'est l'une des voies pour permettre à chacun et à chacune d'être partie prenante et investie dans ces musiques-là ?
Naturellement, et j'habite en Allemagne depuis beaucoup d'années, et l'Allemagne est quand même un des pays qui a donné naissance au plus grand nombre de compositeurs géniaux. Et en fait, je dois déplorer qu'à l'école publique, la part de la musique est devenue quasi inexistante au fil du temps. Je pense que la première chose à faire, c'est d'aller vers ces publics, vers les jeunes, déjà d'espérer qu'il y ait davantage de musique, mais j'y crois pas trop. Mais c'est donc à nous, interprètes, d'aller dans les écoles. Et ça, je le fais beaucoup. Et aussi, comme Julie, dans différents autres endroits, que ce soit des endroits où on n'entend généralement pas la musique classique. Et aussi, il y a tout ce rituel, parfois, il faut s'habiller
de telle manière.
Pensent, on n'a pas le droit d'applaudir. Personnellement, ça ne me dérange pas si des gens applaudissent même en plein milieu d'une pièce. Si ça part du cœur, si c'est comme ça un sentiment. Et je pense que... Et on dit aussi, le prix des places est tellement cher, c'est pas vrai. Moi, qui ai un fils passionné de foot, je vais regarder des matchs de football avec lui. Et c'est beaucoup plus cher que d'aller à l'opéra à Berlin.
Ah bah c'est sûr que le concert de Beyoncé, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur par rapport à un concert de Beyoncé, par exemple. Ouais.
C'est ça.
Mais toujours en lien avec l'école en France, normalement, il devrait y avoir des centaines de milliers de flûtistes, étant donné que tous les collèges de France ont investi tôt ou tard dans des cartons de flûte à bec. Pourquoi se trouve-t-il que, Julie, tu ne sois pas... Il n'y a pas des milliers de personnes qui t'accompagnent avec des flûtes, là, alors?
Ah, c'est vrai. Je crois qu'aujourd'hui, ça y est, les flûtes à bec ont été remises dans les placards. Alors, flûte à bec, flûte traversière, c'est un tout petit peu différent. Mais c'est vrai que l'apprentissage, je crois que ça se transmet par la passion. J'espère que dans certains collèges, il y a des profs de musique passionnés qui vont vraiment transmettre quelque chose. Et puis toujours rappeler à chacun que moi, quand on me dit tu comprends, j'y connais rien, alors je peux pas vraiment aller à un concert de musique classique. Je dis mais non, mais l'important c'est pas que tu connaisses quelque chose. Déjà, n'y connaître rien, pour moi souvent c'est les meilleurs publics parce qu'ils sont beaucoup moins filtrés dans leur écoute. Et je leur dis, mais juste, est-ce que tu es touché ou pas? Est-ce que tu es heurté? Est-ce qu'il y a quelque chose juste? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu n'aimes pas? C'est juste ça, en fait. C'est ça le plus important. Le reste, on peut partir après dans des grandes réflexions intellectuelles, mais chaque personne peut juste sentir quelque chose. Et c'est ce qui me semble le plus important.
Eh bien, merci beaucoup pour ces témoignages, les uns et les autres. Ce soir, on a rendez-vous à 18h avec toi, Cédric Pitcher, à l'église du Saint-Crucifié, la chapelle du Saint-Crucifié à Cordes-sur-Ciel pour un solo de piano, John Cage et Schumann au programme. Michel Agnès, tu es toujours où tes œuvres vont vivre encore pendant plusieurs jours là, durant le festival. Et toi, Julie, tu vas notamment jouer une œuvre de Michel Agnès durant ce festival. On va te retrouver aussi hein, pour le concert Bach Villa-Lobos à la chapelle du Saint-Crucifix ce mercredi à 18h. Très bon festival à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus dans le studio de CFM Radio. Et en musique, on va se quitter avec l'un des groupes qui va enflammer l'église Saint-Michel ce soir. C'est Harold Lopez Nussa, pianiste brésilien, qui sera accompagné par son frère Rui aux percussions pour un concert de jazz cubain. Voici le titre Funky. Très bonne journée à chacun. Merci.